Nous lisons ce matin un psaume. Et les psaumes, on a plus l'habitude de les avoir dans la première partie du culte qu'au moment de la prédication. Le livre des psaumes, c'est un peu comme un livre de louanges, comme un recueil, comme notre bon vieux J'aime l'Éternel. On y retrouve toutes sortes de cantiques. Des cantiques pour l'assemblée des fidèles, pour qu'ils puissent louer leur Dieu. Et nous pouvons, en les lisant, apprendre, nous aussi, à louer Dieu, apprendre comment Dieu veut que l'on le loue. Je disais, il y a toutes sortes de cantiques, et il est intéressant, quand on regarde des cantiques, de voir déjà qui prend la parole. Il y a des cantiques qui parlent à la première personne du singulier. « Je, le croyant, s'exprime envers son Dieu ». D'autres, c'est la première personne du pluriel. Nous, en tant que communauté, nous nous tournons vers le Seigneur. Il est intéressant de voir à qui s'adressent ces cantiques. Le plus souvent, ils s'adressent à Dieu pour lui adresser des louanges, pour le prier, pour nous engager envers lui. Ils peuvent aussi s'adresser à nous-mêmes. Je peux chanter pour moi-même. Bénis l'Éternel, mon âme. Je m'exhorte moi-même à louer Dieu. Ils peuvent s'adresser au reste de la communauté. Venez le célébrer. Nous nous encourageons les uns les autres à le chanter. Et puis souvent, ils servent aussi à la proclamation. Il n'y a pas vraiment de sujet. Il n'y a pas vraiment de destination de personne à qui on s'adresse dans ce chant. Le chant ne s'adresse à personne, ou plutôt il s'adresse à tout le monde. Nous proclamons alors ce que nous croyons. Nous confessons notre foi. En d'autres termes, nous faisons retentir au milieu de la création les louanges du Très-Haut, les louanges de Dieu. Il est intéressant. Quand on regarde des cantiques, que ce soit les psaumes qui font partie de la parole de Dieu ou de façon plus modeste, les cantiques que nous chantons, d'essayer de comprendre le mouvement qu'ils veulent donner. Ici, ce psaume invite ceux qui écoutent à la louange. Et ça, on le voit dès le premier verset. Célébrez Dieu, un impératif. Nous sommes invités à le louer, nous qui lisons ces paroles aujourd'hui. Célébrez Dieu car le psaume va nous donner des raisons pour le louer. Il nous donne des raisons parce que on ne sait pas toujours pourquoi louer Dieu. Comment être toujours reconnaissant? Comment être reconnaissant jour après jour? C'est un défi. C'est un défi qu'on a avec notre relation avec le Seigneur, mais c'est un défi qu'on a dans toutes nos relations. Comment renouveler notre reconnaissance envers notre conjoint, envers nos parents, envers des amis, envers des personnes qui nous sont chères? Comment renouveler cette reconnaissance et ne pas tomber dans un train-train de nous tenir à côté d'eux? C'est pas toujours le faire. Et pourtant, c'est important. Pourtant, parfois, quelqu'un va nous demander, mais tu dis que tu m'apprécies, tu dis que tu m'aimes, mais pourquoi? Parce que des fois, on doute, parce que des fois, on a besoin d'être sûr, d'être rassuré sur ce qu'on apporte à l'autre, et on a besoin d'entendre ce qui est bien, ce qui est apprécier. On a besoin de savoir si la personne le pense vraiment ou si elle le dit par automatisme. Alors, ce n'est pas tout à fait pareil avec Dieu. Dieu n'a pas de problème de confiance en lui. Mais je crois qu'il veut que nous sachions pourquoi nous l'aimons, pourquoi nous le louons. Je crois qu'il a pour nous un souci pédagogique de vouloir que nous nous présentions devant lui, non pas par automatisme, mais avec une vraie sincérité, avec une vraie motivation. Et c'est pour ça qu'il nous demande pour quelle raison nous venons le louer, pour que nous soyons au clair avec ça et que nous puissions nous exprimer dans la sincérité. Mais regardons notre texte à présent. Notre texte a une structure évidente. Je ne parle pas de la structure de tout le psaume qui pourrait être étudié, mais il y a quelque chose qui a dû vous sauter aux oreilles quand nous l'avons lu. Parce qu'il y a des refrains qui reviennent. Il y a des choses qu'on répète mot pour mot, quatre fois. Quatre fois, alors je ne sais pas comment c'est dans vos versions, quatre fois j'ai lu « Dans la détresse, ils crièrent vers le Seigneur et il les délivra de leur désarroi. » Et pareil, quatre fois j'ai répété « Qu'ils célèbrent le Seigneur pour sa fidélité et pour ses actes étonnants en faveur des humains. » Et donc on a comme ça quatre grands paragraphes découpés en trois avec des interlignes qui sont les deux versets que je viens de vous lire, les deux versets qui sont répétés. Et donc, dans chacun de ces quatre paragraphes, c'est construit de la même façon. Il y a d'abord une situation qui est exposée. Une situation de détresse. Situation de personnes qui sont dans le besoin. Et dans leur détresse, ils crièrent vers le Seigneur. Il y a une prière qui est adressée à Dieu et la réponse que le Seigneur y fait. Donc la prière, c'est le refrain, et la réponse est différente dans chacun des quatre paragraphes. Et après cela, troisième sous-partie des paragraphes, il y a une invitation à la louange en réponse à ce que Dieu a fait pour eux. Quatre paragraphes, quatre situations, quatre délivrances, quatre comme les quatre points cardinaux que l'on trouvait au verset 3. Au verset 3, où on lit que le Seigneur a rassemblé de tous les pays, de l'Est, de l'Ouest, du Nord et de la mer. Certaines versions ont du Nord et du Midi. On a ici la description d'un rassemblement. Et c'est pour ça que je tenais à chanter ce chant avant la prédication de rassemblement. Parce que c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous vivons ici, et c'est ce que Dieu a voulu, un rassemblement de fidèles, un rassemblement de croyants. En fait, en lisant ce psaume, j'ai été frappé parce que ce psaume est très chrétien. Les psaumes, ils sont normalement dans l'Ancienne Alliance, avant la venue de Jésus-Christ. Il y a un peuple élu qui se doit d'être fidèle à l'Alliance. Mais là, dans ce psaume, ce schéma éclate et ce psaume prophétiquement annonce ce qu'il y a à venir. Annonce que des gens qui viennent des quatre coins du monde seront sauvés. Ça annonce l'œuvre du Seigneur, comme Ésaïe également l'a annoncé en Ésaïe 66. Voici. « Je vais venir rassembler toutes les nations et des gens de toutes langues. Ils viendront et ils verront ma gloire, dit le Seigneur. » Et c'est Jésus qui a rassemblé ces personnes, puisque dans l'Apocalypse, la louange qui est rendue à l'agneau, qui est rendue à Jésus, dit « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Ce psaume est un psaume prophétique qui annonce ce qui est à venir. Et on ne trouve pas autre chose dans les versets 2 et 3 qu'ils le disent, ceux que le Seigneur a rédimés. Ma version est un peu ancienne, la plupart de vos versions auront ceux que le Seigneur a rachetés. Ce qu'il a repris à l'adversaire, qu'il a repris aux griffes du péché, à la domination de Satan, et qu'il a rassemblé de tous les pays des quatre points cardinaux. Mais regardons un peu les quatre provenances de ces fidèles à qui s'adresse ce psaume. Les premiers, ils erraient dans le désert. Ils sont dans le désert, errants. Ils ne trouvent pas de place dans ce monde. Ils ne trouvent pas leur place. Et je crois qu'ils ne trouvent pas de sens dans ce monde. On lit qu'ils souffrent de la faim et de la soif. Ils ont beau goûter ce que ce monde a à offrir. Ils ont beau essayer la philosophie, la politique, rejoindre des causes, ça les laisse sur leur faim. Et ils sont là, dans un désert, en quête de sens. Rien ne les rassasie. Et donc, ils font cette prière qui revient comme un refrain dans leur détresse. Ils crient vers le Seigneur et il les délivra de leur désarroi. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'ils crient comme ça vers le Seigneur ? On ne sait pas. Peut-être pour essayer une ultime solution, peut-être parce que c'est la dernière chose qu'ils n'ont pas encore essayée. En tout cas, à un moment, ils se tournent vers le Seigneur et là, ils trouvent un sens à leur vie. Ils trouvent une direction. Le Seigneur les conduisit par un chemin tout droit. La direction est évidente. Tout prend un sens, un chemin tout droit pour qu'ils aillent habiter dans une ville. Ils trouvent leur place. La ville des croyants, c'est l'Église, l'épouse du Christ, celle où nous sommes invités à, pour avoir une place, pour trouver un sens, pour servir notre Seigneur. Le Seigneur les sauva de leur désarroi et ils peuvent se dire, c'était donc ça. Si je vis, c'était donc parce que tu as voulu de moi, Seigneur. Et donc, ils sont invités à louer le Seigneur, qu'ils célèbrent le Seigneur pour sa fidélité et pour ses actes étonnants en faveur des humains, parce qu'ils ont été rassasiés. Leur faim a été rassasiée par ce que leur a révélé le Seigneur. Le deuxième groupe de personnes sont prisonniers des ténèbres. Leur situation est différente. En lisant ce passage, on comprend qu'ils connaissent les paroles du Seigneur, mais ils se sont rebellés, ils les ont rejetées. Ils connaissent les paroles du Seigneur, peut-être y ont-ils été exposés, enfants ou étudiants. Peut-être est-ce à une autre période de leur vie. Ils y ont été exposés, ils l'ont étudié, ils les connaissent, mais un jour ils ont voulu vivre de leur propre chef. en mettant de côté ces choses, en voulant vivre selon leurs propres désirs, sans respecter les commandements de Dieu. Et le problème, c'est qu'ils se sont retrouvés prisonniers. Prisonniers de leur choix, dont ils ont dû subir les conséquences. Il y a des choix qui ne sont pas toujours bons, et ensuite, que l'on paye pendant longtemps, qui coûtent. Prisonniers de leur choix, prisonniers également de leur orgueil, parce que des fois, quand on a fait un choix, même en sachant qu'il est mauvais, on a du mal à revenir en arrière. Et notre orgueil nous y tient encore prisonniers, un moment. Ils me font penser au fils prodigue de la parabole que raconte Jésus. Lui aussi, un jour, a voulu faire ses choix, même s'il connaissait la vie agréable dans la maison du Père. Il a voulu faire ses choix, il a voulu mener une vie de fête, une vie de dépense, une vie de débauche. Et il a dépensé, sans compter, jusqu'à sa ruine. Et là, il a médité sur sa situation. Il s'est souvenu de ce qu'il connaissait et il a compris là où il en était et il a eu un sursaut. Un sursaut qui lui a permis de revenir vers Dieu. Dans la détresse, ils crièrent vers le Seigneur et il les sauva de leur désarroi. Ce sursaut, c'est de savoir que Dieu à la solution. C'est d'accepter de mettre son orgueil de côté et s'humilier devant lui, de revenir avant qu'il ne soit trop tard et que je sois trop endurci pour faire demi-tour. Et comme le Père dans la parabole du fils prodigue, Dieu a accueilli leur demande et il les a fait sortir de leur prison, il les a fait sortir des conséquences de leurs actes. Il leur a permis de ne plus subir ces conséquences, mais de redémarrer une nouvelle vie de liberté en lui. Qu'ils célèbrent le Seigneur pour sa fidélité et pour ses actes étonnants en faveur des humains. Eux qui ont une deuxième chance, eux dont les liens ont été brisés. Le troisième groupe, alors là, on va un cran plus haut dans la rébellion. La version que j'ai lue les appelle des imbéciles. Oui. Voilà. La version que j'ai les appelle des imbéciles, d'autres versions les appellent des insensés. Les insensés, dans la Bible en particulier, dans la littérature de sagesse, c'est à la fois ceux qui n'écoutent pas Dieu, mais qui n'écoutent pas non plus la sagesse des hommes. Ils n'écoutent personne. Aucun conseil. C'est pour ça que je dis qu'ils sont un cran plus haut dans la rébellion. Je peux lire par exemple ce qui est écrit dans Proverbes au chapitre 1. La crainte du Seigneur est le commencement de la connaissance. La sagesse et l'instruction, voilà ce que les imbéciles méprisent. Ils ne se sont pas seulement détournés de Dieu, mais de toute sagesse et de tout enseignement. Et ils mènent une vie d'autodestruction, n'écoutant personne. Le psaume nous dit que leur gosier avait en abomination toute nourriture. Il n'y a rien qui leur convient. Ils brûlent la vie par les deux bouts. Sex, drugs and rock and roll. Et par ces excès, eh bien, ils courent vers leur perte. Ils touchent aux portes de la mort. Ils s'exposent à la maladie, overdose, accident, que sais-je. Et un jour, eux aussi, un sursaut dans la détresse. Ils crièrent vers le Seigneur et il les sauva de leur désarroi. Est-ce que c'est par hasard? Qu'est-ce qui leur a permis de se tourner vers celui dont ils n'ont pas entendu parler? On ne sait pas, mais on entend des témoignages comme ça de personnes qui avaient des vies dissolues et qui un jour ont crié vers Dieu. Et Dieu leur a envoyé sa parole. C'est ce qu'il est écrit au verset 20. Il envoya sa parole. Ce qu'ils n'avaient jamais entendu, eh bien, ça leur est révélé. Et c'est une révélation qui les délivre, qui leur a donné la réponse aux questions qu'ils se posaient, qui a comblé le trou béant qui était en eux. Qu'ils célèbrent le Seigneur pour sa fidélité et pour ses actes étonnants en faveur de tous les humains. Eux, avec ce qu'ils ont vécu, ne peuvent que louer Dieu pour la délivrance, pour la guérison. Ils ne peuvent que témoigner de ce qu'ils ont vécu. Et puis, nous avons un quatrième groupe de personnes. Et cette fois, on a affaire à ceux qui ont trouvé leur place dans le monde, ceux qui y sont à l'aise. Ce sont des gens qui voyagent sur les mers et qui font des affaires. Ils travaillent dans le business international. Ils ont réussi. Ils ont fondé des affaires, possèdent des bateaux. Tout leur réussit. Ils connaissent le succès selon les critères de ce monde. Mais en fait, c'est sans doute ceux qui sont le plus loin du Seigneur. Pour les toucher, eux, Dieu doit sortir les grands moyens. Et on lit, il déclenche des tempêtes, et des tempêtes comme jamais. Ce portrait est tellement vrai. On peut penser à ceux qui ont un succès économique et à qui il faut une crise mondiale pour les ébranler. À ceux qui réussissent leur vie et à qui il faut une maladie grave pour leur montrer qu'ils ne contrôlent pas tout. Il faut un grand événement pour se retrouver tout petit et prendre conscience de la grandeur de Dieu. Et eux aussi, dans la détresse, ils crièrent vers le Seigneur et il les fit sortir de leur désarroi. Pour eux aussi, malgré leur orgueil, malgré leur suffisance, pour eux aussi, il y a une porte de sortie. Dieu entend leur désarroi. Dieu calme la tempête et il les amène même au port désiré. Dieu ne se contente pas de limiter les dégâts. Il va même jusqu'à les laisser aller au bout de leur idée une fois qu'ils l'ont rencontré. Mais ils y sont transformés par la rencontre qu'ils ont faite avec lui, par la prise de conscience de leur petitesse, qu'ils célèbrent le Seigneur pour sa fidélité et pour ses actes étonnants en faveur des humains. Ils sont invités à le louer et à rejoindre le cœur de ceux qui le louent. Et ainsi, tout le monde est invité. Toutes les personnes qui ont été rachetées par Dieu, individuellement, dans leur situation, qui ont fait appel à lui et qui ont reconnu sa main, sont appelées à se rassembler pour le louer. Pour louer ce Dieu qui rend justice. Et c'est le passage qu'il y a après, dans les versets 33 à 41. ce Dieu qui rend justice, qui transforme toute chose, qui prend ceux qui ont été favorisés, et s'ils ont mal utilisé les faveurs dont ils ont bénéficié, eh bien, les voilà appauvris, punis. Et à l'inverse, ceux qui étaient défavorisés, s'ils se sont tournés vers le Seigneur, s'ils se sont attendus à lui, s'ils ont crié vers lui pour trouver leur secours, eh bien, ils l'obtiennent et ils sont enrichis. En préparant cette prédication, je repensais à ce chant. Merci d'un cœur reconnaissant. Le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche, et le riche devient pauvre et le fort devient faible. Notre Dieu est un Dieu qui transforme, qui inverse les situations quand cela est nécessaire. Il rend justice à chacun. Et dans notre monde, où on a l'impression que règne la loi du plus fort, celle du plus riche, celle du plus malin, on a l'impression d'une très grande injustice, d'une grande impunité, d'une injustice sociale, d'une injustice d'origine, eh bien on ne peut que louer le Seigneur qui vient transformer les choses, rétablir, donner des chances à ceux qui n'ont pas eu, et les enlever à ceux qui les ont mal utilisés. On ne peut que louer celui qui vient rendre la justice parfaite. Et c'est ce que va faire le rassemblement de tous les fidèles, et que nous avons lu des versets 33 au verset 41. Que faire de ce psaume ? Nous, aujourd'hui. Je vous l'ai dit, il n'y a pas forcément besoin de faire un grand travail de transposition. Ce psaume est déjà un psaume très chrétien. Je crois qu'il y a dans ce psaume une invitation à la louange que nous devons entendre pour nous aussi venir célébrer le Seigneur. Le conseil réfléchit aux missions que Dieu donne à son Église. Vous avez vu les panneaux affichés au week-end d'Église, et ils le seront bientôt dans cette salle aussi. Et une des missions que nous avons vues, c'est cette mission d'adoration. L'Église existe pour adorer son Seigneur, pour faire retentir sa gloire dans l'univers. Il faut bien avoir conscience que on n'est pas chrétien pour se faire du bien. On ne vient pas à l'Église pour se faire du bien. Si on en sort béni, ça c'est du bonus. Et je vous rassure, c'est un bonus qui arrive souvent. Parce que Dieu est un Dieu bon et fidèle, comme nous l'avons lu au verset 1. Mais si on vient à l'Église, c'est pour répondre à l'amour de Dieu, pour nous tourner vers lui, pour l'adorer. Mais je reviens à la grande question du début de cette prédication. Pourquoi est-ce qu'on adore Dieu ? Dieu veut que l'on sache pourquoi on le loue. Il ne veut pas que nous venions ici, dimanche après dimanche, chanter les mêmes chants, et certains ne sont pas des trésors d'édification, que nous venions les chanter du bout des lèvres et répéter « Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur ». Il veut que l'on vienne avec un cœur sincère, un cœur qui sait pourquoi il est là, qui sait ce qu'il doit à son Seigneur. Un cœur rempli de reconnaissance et qui offre sa louange avec cette reconnaissance et non pas par obligation ou par habitude. Et pour trouver la base de notre louange, de notre adoration, quoi de plus stimulant que notre salut ? Et ça nous amène à un deuxième point, une deuxième leçon que je vois dans ce psaume. c'est celle d'avoir toujours notre salut en tête. Avoir toujours la mémoire de ce que Dieu a fait pour nous lorsqu'il nous a rachetés. Ce psaume nous rappelle quatre parcours forts. Ceux qui sont affamés dans le désert, ceux qui sont prisonniers des ténèbres, les imbéciles ou les commerçants des mers. Peut-être vous reconnaissez dans un de ces quatre portraits, peut-être que vous avez vu là votre parcours. Peut-être pas. C'est normal, ce sont des exemples types et le psalmiste les a voulu assez marqués, assez spectaculaires. Il peut y en avoir d'autres, des mélanges de ces situations ou d'autres plus calmes, moins mouvementés. Mais à un moment, tous ceux qui croient se sont tournés vers le Seigneur pour le découvrir, pour revenir à lui, pour l'entendre une première fois, pour prendre conscience de sa petitesse. Gardons toujours en cœur, gardons toujours en mémoire cet événement. Soyons prêts à le ressortir, à le réactiver, à le partager, pour le louer, pour dire au monde ce qu'il a fait, comment il a exercé envers nous sa justice. Et puis, dans ce psaume, je vois aussi une troisième leçon, celle de se poser la question de mon propre salut. Peut-être tu es là ce matin et tu hésites. Tu ne sais pas si tu dois suivre cette voix que tu entends, si tu dois t'abandonner, lâcher, reconnaître ta petitesse, s'il faut essayer cette voie que tu n'as pas encore essayée, cette solution pour laquelle tu hésites. Je ne peux que répéter l'avertissement du dernier verset du psaume. Que celui qui est sage prenne garde à tout cela et comprenne la fidélité du Seigneur. C'est ta responsabilité, dans la détresse, de crier vers le Seigneur pour qu'il te sauve de ton désarroi, de reconnaître ta détresse, reconnaître que ça ne va pas. Crier vers Dieu, reconnaître que seul, on ne s'en sortira pas. Et je ne peux que t'encourager à le suivre, à lui répondre favorablement, à venir rejoindre le concert de louanges de ceux que Dieu s'est acquis. Viens, viens participer. Célébrer le Seigneur pour sa fidélité et pour ses actes étonnants en faveur des humains. Car il a rassasié le gosier altéré, il a comblé de bien l'affamé, il a brisé les portes de bronze, il a cassé les verrous de fer. Offrez des sacrifices de reconnaissance et racontez ses œuvres avec des cris de joie. Exaltez-le dans l'assemblée du peuple, louez-le dans la réunion des anciens. Voilà l'invitation à la louange qui retentit dans ce psaume. Et cette louange doit retentir dans la création entière. La louange pour celui qui apporte la justice, qui vient remettre les choses droites, qui rétablit. Et cette louange, nous devons la porter. Jésus nous dit que si nous ne le faisons pas, les pierres le feront à notre place. Quelle humiliation, quelle honte d'avoir besoin d'être inanimé pour pallier à la louange d'être vivant et intelligent quand elle est déficiente. Aussi, n'hésitons pas et venons le louer. Pour entretenir cette louange, il convient de nous poser la question : pourquoi est-ce que nous le louons ? Nous ne sommes pas là juste pour répéter en boucle : je t'aime Seigneur. On a besoin de savoir pourquoi nous louons Dieu. C'est comme ça que notre louange est sincère. Pourquoi pouvons-nous le louer ? Pour le salut qu'il nous a apporté. Le salut qui nous fait prendre part à son peuple. Et c'est ce que je vous invite à faire à présent. Je vous invite à vous lever et à louer Dieu par deux chants. D'abord, le louer parce qu'il est bon. C'est ce que nous avons lu au verset 1. Célébrez le Seigneur car il est bon, car sa fidélité est pour toujours. Et ensuite, chantez, nous voulons voir Jésus élevé, voir son nom glorifié et que sa louange résonne dans notre Église, dans notre pays et dans l'univers entier.